bonjour à tous et bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 février. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. Évidemment, autour de l'actualité mayonnaise, on va parler aujourd'hui de championnes de judo qui sont en préparation pour les Jeux Olympiques. Et oui, déjà les JO de 2024 à Paris. Elles sont en préparation à Château-Gontier avec Rodrigue Chenet, vous les entendrez. Et puis on va également parler sport avec un autre champion en tennis, celui-là, Aubin Rouillon, lui aussi originaire de Château-Gontier, qui donc répondra aux questions de Steven. Et puis on parlera aussi, pas que sport, hein, il y aura aussi du cinéma aujourd'hui, avec la chronique de notre stagiaire Gatien qui va nous parler, nous en dire un peu plus. Et oui, on a déjà des petites infos, des petits tuyaux sur le prochain festival des reflets du cinéma organisé par Atmosphère 53. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité avec la carte scolaire pour la prochaine rentrée qui vient d'être présentée par la direction académique. 448 élèves en moins dans le département. Et pas de poste d'enseignants supplémentaires n'est prévu en tout cas. Et pas de grand changement par rapport à ce qui avait été déjà indiqué. 17 fermetures de classes sont toujours prévues et 9 ouvertures, dont 2 en dédoublement de classes. Et pourtant, selon les syndicats, dont SNUDI FO53, il faudrait 41 créations de postes pour répondre aux besoins des enseignants et des élèves. Déjà 300 contributions aux états généraux de la santé en Mayenne, alors que la plateforme collaborative a été lancée il y a 15 jours seulement. Les Mayennais ont été nombreux à faire part de leurs propositions pour améliorer le système de santé, avec des propositions sur l'accès aux médecins généralistes, les délais d'accès aux spécialistes ou encore la situation des hôpitaux. Vous pouvez vous aussi donner vos idées sur la plateforme jusqu'au 23 mars. La plateforme accessible sur lamayenne.fr/egsanté. Les visites sont, elles, totalement suspendues à l'EHPAD Saint-Joseph à Château-Gontier et elles restent interdites à l'hôpital du Haut-Anjou sur le site de Château-Gontier et de Segré. En revanche, les résidents de l'EHPAD des Marronniers à Château-Gontier peuvent accueillir des visites. Quant au centre de dépistage de la Covid installé à la halle du Haut-Anjou, il est prolongé jusqu'au vendredi 11 février. Un nouveau partenariat entre Laval Agglomération et la Banque des Territoires. Une convention a été signée fin janvier avec la ville de Laval, également pour mener des projets de requalification du cœur de ville, et notamment la place du 11 novembre. Des projets aussi de rénovation des écoles de territoire, de développement économique, mais aussi de projets autour de l'eau, l'assainissement ou encore les mobilités. Et puis en football, Laval reçoit ce soir Bastia Borgo pour conserver sa première place. Puisque les Tangos sont leaders du classement, ex-aequo avec Concarneau, classement de national. Avant d'accueillir ce soir l'équipe de Bastia Borgo, à noter la présence de la nouvelle recrue Ambroise Gbo dans le groupe aux dépens de Fumu Tamuzo. Match prévu à 19h au stade Francis Lebassère. On va rester dans le sport et on va parler judo d'ici quelques minutes avec donc des championnes des délégations étrangères qui s'entraînent actuellement à Château-Gontier. Mais tout de suite, on écoute Honey Fit avec Quick Ball. c'était Quick Ball de Onifit dans l'AJT du local sur l'autre radio. Et je vous l'ai dit, aujourd'hui, ça va être une émission assez sport. C'était pas forcément voulu, mais ça tombe comme ça. Vendredi, c'est sport. Et on passe donc au judo, du foot au judo, avec des championnes qui se sont donc installées à Château-Gontier pour quelques semaines, pour même un mois et demi pour certaines. Des championnes de délégation argentine, ivoirienne, togolaise et aussi de l'île Maurice. Une quinzaine de sportifs et de sportives au total qui viennent préparer les JO 2024 à Château-Gontier avec Rodrigue Chenet, qui a déjà reçu effectivement d'autres délégations, mais là la délégation du Togo, c'est une nouveauté, qui viennent aussi préparer d'autres compétitions comme ce week-end le Grand Slam de Paris. Mais on va voir en tout cas sur place, lors d'un entraînement, comment se passe justement toute cette préparation pendant plusieurs semaines et quels sont les enjeux d'un tel accueil ici à Château-Gontier.
Donc je m'appelle Rodrigue Chenet, je suis le directeur technique sportif du judo club Pays de Château-Gontier depuis 2012.
De nouvelles délégations étrangères sont ici à Château-Gontier pour au moins un mois, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui est présent et pour combien de temps il reste?
Oui, alors on a des délégations qui sont là pour la première fois, notamment le Togo. Et après, on a signé la convention ce matin avec Vincent Saunier pour l'Argentine, qui étaient déjà venus en 2016 préparer leurs Jeux Olympiques. Donc ça avait porté bonheur puisque la fille avait été championne olympique dans la foulée. Et du coup, on a gardé contact et des liens. Et après, ils sont revenus en 2017, 2019. Et là, ils reviennent cette année pour une période de 6 semaines. C'est pour être dans la continuité de Paris 2024, d'officialiser les choses. Et puis c'est aussi une source de garantie aussi pour eux, de pouvoir les recevoir dans des bonnes conditions. Il y a des cahiers des charges à respecter, etc. Et à chaque fois, on essaie d'améliorer un petit peu leur quotidien, parce que là, ils sont quand même éloignés de leur famille pendant un mois et demi. Et être dans des bonnes conditions, c'est agréable et ça permet aussi d'être plus performant et concentré sur leurs objectifs.
Quand justement on reçoit des délégations comme ça, vous dites c'est un cahier des charges, il faut faire attention. À quoi il faut faire particulièrement attention justement quand on reçoit des athlètes?
Le premier mot qui vient, c'est le Covid, c'est clair. Parce que ce matin, on était encore sur des tests PCR. On a été au Portugal le week-end dernier. On a dû se faire tester avant de partir. En arrivant à la compétition, c'est extrêmement verrouillé et on rentre dans une forme de bulle comme aux Jeux Olympiques. C'est le même schéma. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus en sortir. Et malheureusement, on est vraiment dans l'adaptabilité puisqu'on a deux filles qui ont été testés positifs avant de prendre l'avion. Donc pas de possibilité de participer. Et c'est dur psychologiquement. Et ça, c'est un facteur qu'on ne maîtrise pas. D'où le fait de s'adapter et de réconforter du mieux possible face à des situations extrêmes. Normalement, on a 8 participants au Grand Slam de Paris ce week-end. C'est une première, on n'en a jamais eu autant qui viennent s'entraîner en même temps. Et une première aussi d'avoir plusieurs délégations en même temps de différents continents, l'Amérique latine, l'Afrique. C'est une bonne expérience humaine, sportive et puis au niveau de la culture aussi, quoi.
Qu'est-ce que ça change justement d'avoir plusieurs délégations en même temps
Alors ça change le quotidien déjà parce qu'il y a beaucoup plus de travail. On est sur des entraînements bi-quotidiens, le matin plus après-midi, sur des volumes horaires de 2h à 3h. Par séance, sauf cette semaine on est sur un mode dégressif étant donné qu'ils se rapprochent de leurs échéances, à part ceux qui ont encore quelques kilos à perdre qui doivent faire cet effort-là jusqu'au bout, quoi.
Quel est vraiment le programme, on va dire, sur les 6 semaines? On reste toujours sur cet strict entraînement 2 fois par jour?
Oui, l'objectif c'est d'emmagasiner aussi de la technique, de voir une autre forme de travail en termes de préparation physique. Donc pour essayer de couper la routine, on a été s'entraîner sur d'autres sites, notamment à Angers, une académie Yoda High School. Il y a une nouvelle salle à Sparte qui s'appelle, qui a ouvert il n'y a pas longtemps, et on a réussi à trouver un partenariat avec eux. Et c'est important parce que là, comme on est tous les jours avec ces athlètes-là, de ne pas tout le temps faire la même chose. Hier, on a été à Nantes sur le pôle. On a enfin été reçu parce que ça faisait 2 semaines qu'on ne pouvait pas y aller à cause du Covid. Et ça s'est fait au dernier moment, mais on a pris les minibus et on est parti. Comme ça, ils ont pu avoir une opposition encore différente avec un public junior qui prépare des championnats de France. Donc qui était aussi sur un objectif de compétition importante.
Plus il y a de judoka et judokate, plus chacun a une progression différente et un niveau différent aussi. Comment est-ce qu'on accompagne des profils aussi divers?
La masse et le nombre de judokas, ça crée de l'engouement et au fil des séances aussi une certaine cohésion. On est dans un sport de confrontation, mais on a besoin des autres pour progresser. Et c'est le message que j'ai bien voulu faire passer ce matin. La Côte d'Ivoire vient d'arriver. Ça a été un petit peu dur les entraînements d'hier. Et j'ai demandé aux filles d'Argentine sur le circuit de mélanger les délégations. Une fille d'Argentine devait s'occuper d'une fille de la Côte d'Ivoire pour booster le groupe et les faire monter et progresser ensemble.
Là, on comprend que le grand objectif, c'est bien la préparation au JO 2024, mais ça peut paraître loin. Chacun a quand même cette échéance-là dans la tête.
C'est des cycles de 4 ans et là, c'est pas loin. Pour moi, c'est demain. Je le sais pour avoir déjà préparé 2 Olympiades et ça passe extrêmement vite. Surtout qu'on a été sur un cycle de 5 ans. Et là, Paris 2024 se prépare uniquement sur à peine 3 ans. Du coup, ça reste très court et il y a toujours des points à améliorer, à travailler. Et ça va déjà être la course au point pour les JO, quoi. Il n'y a pas de temps à perdre.
Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici? Vous parliez de technique tout à l'heure, d'une autre manière de s'entraîner?
Moi, je fais aussi de l'analyse vidéo. Donc, ça permet aussi de travailler et de déterminer des profils. Apprendre aussi, là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est travail en autonomie. Et ça, ils n'ont pas l'habitude. En fait, je leur ai expliqué que les athlètes doivent aussi être autonomes pour performer et faire la différence. Bien sûr que nous, on est là pour les accompagner, les aider sur un point de vue technique. Mais se prendre en main, c'est extrêmement important. Et ça, c'est pas quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire. Là, ils essaient de perfectionner leur forme de corps, leurs automatismes, leurs déplacements. Et ça va me faire aussi gagner du temps pour la séance d'après, parce que 30 minutes d'autonomie, ils seront déjà prêts et à faire des combats dans la foulée.
Parmi là les sportifs qu'il y a devant nous, certains ont des palmarès assez impressionnants, de ce que j'ai cru comprendre.
On a Vanessa qui a quand même été 4 fois championne d'Afrique, qui a été licenciée ici, que je me suis occupé en 7 ans. On a Zuleya qui vient d'arriver, qui a été médaillée plusieurs fois au championnat d'Afrique, qui a fait 2 fois les Jeux Olympiques, qui a fait je ne sais plus combien de championnats du monde, mais qui en a fait pas mal. Et là, elle est sur un pic de forme en ce moment, qui j'espère, son objectif à elle à court terme, pour le mois de mai, c'est d'être championne d'Afrique en Algérie. Elle a souvent été médaillée, mais il lui manque l'or. Elle a goûté à l'argent et au bronze, mais il lui manque l'or. Donc c'est l'objectif à court terme qu'on s'est défini. Après, il y a d'autres athlètes du Togo. Il y a une athlète de l'île Maurice qui est ami avec d'autres athlètes. Et du coup, le bouche à oreille entre filles, ça marche assez bien. Et voilà, on reçoit des petits messages. J'aimerais bien venir m'entraîner chez nous. Après, nous, notre dojo, il est ouvert. On a déjà fait venir 22 pays ici. Un peu de partout. Il y a 6 champions olympiques qui sont venus s'entraîner ici, une quinzaine de médaillés mondiales. Donc c'est vrai qu'on a une bonne image en termes d'accueil pour les athlètes. Donc ça fait plaisir. Et on a aussi une fille d'Argentine, Kaysi Perrafan, qui a fait 5e au championnat du monde l'année dernière à Budapest, en moins de 48 kilos. C'est l'avenir pour l'Argentine, je pense. Nous, on est un club, et c'est vraiment la différence par rapport à... Il y a des centres olympiques, hein, un petit peu partout, où là, c'est vraiment de la masse, et l'échange est beaucoup orienté sur le combat, le randori. Alors que nous, au club, il y a un apport technique. Et ça fait vraiment la différence. Et après, on est aussi sur une petite commune tranquille où voilà, on fait du judo, mais on n'est pas en chambre d'hôtel le soir ou dans la journée. Il y a certains stages où voilà, on fait que ça. Là, ils sont dans des chalets, ça crée de la cohésion. Ils sont pas 2 par chalet, ils sont 5. Et puis il y a les autres délégations à côté. Donc on voit bien que ça crée une bonne ambiance.
Des échanges même au niveau culturel, vous avez déjà une anecdote, quelque chose là depuis le début?
Oui, on a prévu après le tournoi de Paris, par exemple, de faire un repas commun, et chacun devra cuisiner de son pays, de l'Afrique, de l'Argentine. Là, la dernière fois qu'ils étaient venus, ils ont découvert les crêpes. Là, ils ont demandé à ce qu'on mange des crêpes. Enfin, c'est des détails, mais c'est assez sympa. C'est assez sympa. Il y a la partie tatami hein, qui est fondamentale, où on passe énormément de temps. Mais après, voilà, les week-ends, on a un petit peu de temps. On essaie aussi de décompresser. Ils ont la piscine qui est à côté. On a visité la ville d'Angers. On a été une fois à la patinoire. C'est pas grand-chose, mais le fait de leur proposer des petites sorties qui sortent du quotidien, ça fait du bien. Quoi.
Je me présente d'abonné Zuleya, judokate ivoirienne, moins de 57 kilos. Bon, moi, je suis là avant les autres. Ça fait près de 5 mois que je suis Château-Gontier. Les autres sont arrivés seulement que le week-end. Donc moi, il y a un peu longtemps que je suis là.
Donc vous êtes venu avec quel objectif ici ?
Ouais, mon objectif, ben là j'ai beaucoup d'objectifs à pouvoir atteindre. Mais comme je dis, pour moi le plus important, pour le moment, surtout cette année, c'est d'être champion d'Afrique. Parce que j'ai eu plusieurs fois des résultats, médaille d'argent, médaille de bronze. Bon, cette année, il faut que ça soit l'or.
Donc justement, là, vous travaillez plus sur les aspects techniques, sur peut-être un de vos points faibles. Comment ça se prépare là depuis 5 mois?
Oui, parce que pour moi, je travaille plus si mes défauts, en fait. Voilà, parce que déjà, la qualité, je pense que nous tous, on a ça. Mais sauf que ce qui fait la différence, c'est des petits heureux. Donc, j'essaie de travailler ça avec l'entraîneur et puis aussi beaucoup la rapidité. Et puis aussi, au niveau mental, c'est-à-dire quand c'est dû, il ne faut pas relâcher. C'est là, il faut vraiment booster, quoi. Donc, je pense que je fais le travail avec l'entraîneur. Quand il voit que c'est difficile quand même, il essaie de venir me motiver pour me dire vas-y, vas-y, même si c'est dû, ça fait que ça me booste beaucoup, quoi. Déjà, mentalement, moi, ça va. Voilà, ça va, mais je pense que je n'ai pas assez. Parce que arrivé un moment, je commence à douter de moi, je commence à me poser beaucoup de questions. Donc je pense qu'avec lui, parce que lui, il ne regarde pas simplement l'athlète. Au fait, ce qui me plaît, il essaie de travailler sur tout. Il essaie de travailler sur tout. C'est-à-dire la rapidité, le mental, physique, la technique. Il essaie de travailler sur tout. Donc ce qui me fait plaisir, je pense que en tant qu'athlète, c'est ce qui m'a manqué. Parce que à chaque fois que je vais dans les compétitions, il n'y a pas grand chose qui me manque, c'est seulement les détails. Et je pense que ces détails-là, je peux trouver ça avec lui.
Et aussi d'autres délégations, d'autres athlètes étrangers, est-ce que ça motive aussi?
Oui, sérieusement, moi ça m'a beaucoup aidé parce que ça fait depuis que je suis quittée aux Jeux Olympiques, je ne m'entraînais plus, j'avais tout relâché parce que j'ai dit que je ne suis pas bien sortie des Jeux, je ne me suis pas donnée comme il fallait, je suis sortie des Jeux très prématurée, je n'étais pas bien, je n'ai pas fait un bon jeu. Non, vraiment, j'étais vraiment abattue, je n'avais plus vraiment l'envie de faire du judo, mais je me suis donné le temps et puis j'ai eu à causer avec lui, il ne m'a pas mis de pression. J'ai décidé que si je dois venir sur le tapis, il faut que ça soit de moi-même. Là, au moins, quand c'est dû, je me rappelle que c'est moi-même que je suis venu, c'est pas quelqu'un qui m'a dit viens, tu vois. Donc, sérieusement, le fait, en même temps, de commencer avec les filles, ça m'a vraiment fait du bien.
Vous avez découvert, j'imagine, Château-Gontier, la vie ici en Mayenne, comment ça se passe?
Ouais, vraiment, j'ai pas grand-chose à dire, parce que c'est pas ma première fois que je viens. Tu vois, à chaque fois que je viens, l'accueil, tout et tout, c'est vraiment chaleureux. Voilà, chaque personne que tu croises, vraiment, qui est ouverte, et puis c'est une très belle ville, vraiment, c'est... Il y a rien à dire, quoi. Comme j'ai dit, voilà, on ne sait pas où l'avenir nous amène, mais mon objectif aussi, c'est vraiment m'installer aussi, essayer de voir si je peux faire d'autres choses aussi, tu vois, essayer d'être aussi comme si je suis en famille, parce que je pense que c'est ça, à Mayenne ici, tout le monde, c'est comme une famille, c'est comme vraiment, c'est super, quoi. Comme j'ai dit, c'est possible que je fasse ma vie là, il n'y a pas de souci, moi je suis partante, quoi. Puisqu'il y aura d'autres compétitions. Mais là, on va essayer, comme j'ai dit, l'objectif, c'est championnat d'Afrique. Ça ne veut pas dire que, comme j'ai dit, championnat d'Afrique et les autres compétitions ne comptent pas. Les Jeux, qu'est-ce qui t'amène aux Jeux? C'est les podiums que tu fais qui t'amènent aux Jeux. Donc, plus tu as la chance d'être sur le podium, plus les Jeux sont ouverts, quoi.
Et c'est tout l'intérêt, justement, de la compétition ce week-end à Paris. Effectivement, ce grand slam qui permettra, en tout cas ils l'espèrent, ces sportives et sportifs, qui leur permettra d'engranger des points pour la préparation des JO 2024. En tout cas, cette compétition Grand Slam de Paris ce week-end, certains espèrent donc un podium pour les meilleurs, sachant que c'est un tournoi très réputé. On va faire une petite pause en musique, on va quitter les tatamis un instant. On fait une pause en musique avec Pink Martini de Lemonade Song et on va parler cinéma.
Well, you couldn't be good if you've never been bad. You couldn't keep cool if you've never gone mad. You couldn't be glum if you've never been glad. And lemons give you lemonade. If you don't do the work, you'll never get paid. If you don't have the crowd, there's no parade. It may be trite, and I know it's cliched, but lemons give you lemonade. The glass is half full of sweet champagne. Some say it's half empty, what do they know? Why would you whine about the rain when you could lose yourself inside a rainbow? Without the climb, you don't get the view. Without the crime, you won't have a clue. Without the blue, and lemons give you lemonade.
Lemonade Song de Pink Martini dans la JT du local. Vous êtes bien à l'écoute de l'autre radio. Et on va passer à une chronique cinéma aujourd'hui. Alors oui, vous savez peut-être, normalement c'est le mardi, mais là on se dit deux pour le prix d'une cette semaine. Avec une chronique de Gatien, notre stagiaire de cette semaine, qui va nous parler du festival Les Reflets du Cinéma. Alors déjà, bonjour Gatien.
Bonjour.
Et première question, toute bête forcément. Qu'est-ce que c'est les Reflets du Cinéma ?
Eh bien, c'est un festival se déroulant sur 12 jours, montrant des longs et courts-métrages issus d'une zone géographique ou d'un pays en particulier. Et cela change chaque année. Par exemple, cette année, c'est un reflet sur les cinémas de la mer Noire qui est promu, donc les films turcs, roumains, bulgares ou encore ukrainiens. En 2020, ce fut le cinéma africain qui a été à l'honneur. Et en 2019, un reflet scandinave a été présenté. Il a été créé Il a été créé en 1997. Le festival rassemble chaque année environ 25 000 curieux par jour durant toute la période des festivités, voulant échanger avec des professionnels ou en apprendre un peu plus sur la vie et la culture étrangère, ou tout simplement regarder des films. Ces métrages sont choisis dans tous les genres, allant de la comédie au drame, en passant par de l'animation pour les plus jeunes ou bien un documentaire. Ils sont accessibles à tous, beaucoup sont nommés ou primés dans les grandes cérémonies ou festivals, comme par exemple cette année, Léviathan du réalisateur russe Andrei Zvagintsev, primé pour le meilleur scénario au Festival de Cannes. C'est un drame autour de Kolia, garagiste, mari et père de famille russe, se voyant acheté par le maire de sa ville pour son terrain et sa maison. Kolia refuse et le maire se voit obligé d'employer des manières plus sévères.
Alors ça nous donne un joli avant-goût de ce qu'on pourra voir et découvrir dans ce festival. Mais forcément, on se demande où peut-on trouver ces films ?
Bah, tout simplement, il y a 10 cinémas dans toute la Mayenne qui participent et qui diffusent la cinquantaine d'œuvres sélectionnées. Mais ce n'est pas que des films dans les salles obscures, c'est bien plus que ça. Il y a aussi des rencontres, des expositions, des spectacles, des conférences, etc. etc. Donc plein d'activités très intéressantes pour en apprendre plus sur l'art, la cinématographie et la culture locale. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, vous pouvez vous rendre sur le site internet d'Atmosphère 53 et rendez-vous à partir du 18 mars prochain.
C'est bien noté, merci beaucoup Gatien pour cette chronique autour donc des reflets du Festival des reflets du cinéma qui seront donc consacrés cette année au Festival du cinéma, aux reflets du cinéma de la Mer Noire à partir donc du 18 mars, donc d'ici un petit mois et demi, hein, vous pouvez déjà le noter dans vos agendas, merci. On va passer à la chronique sport, et oui je vous avais dit, c'est un peu le fil rouge hein, de cette émission, le sport aujourd'hui, mais alors on va laisser le foot, laisser le judo et partir, on va prendre notre raquette et partir sur les courts de tennis avec Aubin Rouillon, le champion de tennis âgé de 14 ans. Il est originaire de Château-Gontier et a déjà intégré le pôle France de Poitiers. Il répond aux questions de Steven.
Alors bonjour Marie, alors aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir la future pépite du tennis français, Aubin Rouillon. Alors bonjour Aubin, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es un jeune tennisman de 13 ans qui ne cesse de gravir les échelons et de porter un espoir grandissant sur un avenir radieux. Alors tout d'abord Aubin, à quel âge as-tu pris la raquette et pourquoi la passion du tennis ?
J'ai commencé le tennis à 4 ans et c'est parce que mon père avait joué avec mon frère Théo et du coup ça m'a inspiré de faire du tennis, puis au fur et à mesure j'aimais ça et c'est pour ça que je fais du tennis aujourd'hui.
Alors tu as le tennis un peu dans la peau depuis tout petit, comme tu as dit à l'âge de 4 ans tu arpentais déjà les terrains du tennis club de Château-Gontier où ton père justement t'entraînait. Alors ton talent et ton fort potentiel ne passent bien évidemment pas inaperçus. Tu es dans un premier temps repéré par le comité départemental, puis c'est au tour de la direction technique nationale de s'intéresser à toi. En 2020, tu intègres le centre régional de tennis de Vertoux, dans la Loire-Atlantique. Et aujourd'hui, tu es au pôle de France de Poitiers. Peux-tu nous expliquer un petit peu ton quotidien, ton rythme de vie et ton organisation personnelle ?
Le rythme de vie, il est très, très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de temps libre. Pour le scolaire, il y a 3 heures par jour.
Donc tu fais 3 heures d'entraînement par jour.
3 heures de scolaire par jour.
3 heures de scolaire, pardon.
Et 2 entraînements, de tennis par jour. Ça peut varier entre 2 heures ou 3 heures d'entraînement. Et le physique, toujours 30 minutes, 1 heure le matin. Et le soir, pareil.
Et donc le week-end, tu as des compétitions, tu représentes, je suppose, peut-être parfois en compétition les différents pôles
Les tournois, ils sont pas faits en fonction des week-ends, ils peuvent être dans la semaine, donc souvent on rate les cours, puis on les rattrape après.
Ok, donc tu arrives quand même à étudier facilement malgré la place importante du tennis.
Oui, c'est ça.
Donc justement, comment tu prépares un petit peu ta saison sportive le tennis est connu quand même pour avoir un travail physique et aussi mental. Et donc toi, un petit peu, comment tu prépares ton année par rapport aux compétitions ?
Le mental, il y a un préparateur mental qui vient une semaine tous les mois. Et on fait une séance individuelle et 2 séances collectives avec tout le groupe. Le mental, c'est très important dans le tennis parce que je pense que sans le mental, on peut pas faire de grands résultats. Voilà. Et pour le physique, on a beaucoup de physique dans la semaine et aussi le week-end. Dans les vacances aussi, ouais. Du physique.
J'imagine que tu n'as pas beaucoup forcément de temps de repos dans cette préparation.
Non, pas beaucoup. Les vacances, elles sont chargées en physique. Et c'est pour ça qu'on essaie de se préparer au mieux pour les tournois.
Alors, tu as encore franchi une étape justement en intégrant le Pôle France de Poitiers à Vienne. Tu fais en effet partie des 8 joueurs nés en 2008 sur lesquels mise la Fédération française de tennis. C'est la première fois qu'un tennisman mayennais rejoint cette institution qui forme les garçons de 13 à 16 ans, par laquelle sont passés des champions comme Gilles Simon, Joe Wilfried Tsonga d'ailleurs, qui essaye de revenir après beaucoup de blessures, et Hugo Humbert quand même, qui est le seul français je crois dans le top 30 actuellement, y compris Gaël Monfils. Comment tu fais un petit peu pour rester les pieds sur terre, parce que effectivement le pôle c'est quand même une institution reconnue où justement on attend beaucoup de résultats. Comment tu arrives un peu à rester les pieds sur terre et à être entouré, surtout bien conseillé? Je suppose que tes parents ou toute ta famille est assez présente.
Je trouve que c'est compliqué déjà de quitter sa famille aussi. C'est compliqué. Ça a commencé avec peut-être 2-3 jours tout seul. Après, ça peut-être une ou deux semaines. Et là, ça va des fois sur un ou deux mois tout seul. Donc, c'est compliqué.
T'es conseillé sur peut-être des choix équipementiers ou autres, ou parce que tu peux être vite médiatisé dans le monde du tennis quand on voit parfois les journaux. Est-ce que tu écoutes beaucoup des conseils de peut-être tes entraîneurs ou de ta famille?
Oui, bah les entraîneurs ils disent de ne pas trop se montrer sur les réseaux sociaux, d'être plutôt discret, caché. Et il y a aussi un suivi sur la diététicienne avec l'alimentation. C'est important aussi d'avoir une bonne alimentation.
Oui, complètement. Alors, je vais te faire passer un petit quiz. D'accord? Donc, tu me réponds franchement et puis tu me dis éventuellement pourquoi. Donc, première question. Alors, j'ai pris quand même des joueurs connus. Tu es plutôt Federer, mon fils, ou Tsitsipas? Sachant que Federer est quand même sur une fin de carrière, mon fils pas trop loin, et Tsitsipas, c'est quand même peut-être aussi l'avenir du tennis mondial.
Je suis plutôt sur Federer, qui m'impressionne un peu avec son jeu. Mentalement aussi, il est très fort.
Tu préfères la volée, le revers ou le coup droit?
Le revers. Je préfère le revers parce que j'admirais déjà beaucoup ce coup. Je le maîtrisais déjà assez bien et c'est pour ça que je le prends.
Ok. Plutôt terre battue, gazon ou dur?
Dur. Dur. Parce que j'ai un peu un style qui joue vite. Donc sur le dur, c'est pas mal.
Ok. Tu es plutôt attaquant ou défenseur?
Attaquant. Je suis plus attaquant.
Donc on va dire que toi tu rentres dans la balle, t'envoies des revers, des coups droits qui parfois sont assez décisifs.
Oui, ouais, c'est ça.
Et puis dernière question, t'es plutôt calme, dynamique ou expressif sur le terrain? C'est-à-dire que tu peux mettre justement un gros revers gagnant croisé et puis derrière serrer le poing, être expressif, ou tu es plutôt un peu comme Nadal avec un rituel
Je suis plutôt dynamique sur un court. Et en dehors aussi. Mon rêve, c'est d'être numéro 1 mondial et de gagner Roland Garros et tous les autres grands chelems.
Et c'est évidemment tout ce qu'on peut lui souhaiter. Merci à Steven pour cette chronique et merci à Aubin Rouillon d'avoir répondu à ces questions. On va désormais faire un petit tour des idées, en tout cas de sorties ou d'animations à faire ce week-end et en début de semaine prochaine. C'est évidemment non exhaustif. Vous pourrez notamment aller voir la pièce Nelson à Montaudin, une pièce de Jean-Robert Charrier de la compagnie Les Saltimbanques de Montaudin, donc, qui propose plusieurs séances, plusieurs représentations ce week-end et le week-end prochain, où on parle de deux familles en fait aux visions complètement différentes, et dans la Pindin, on va chercher à voir ce qu'il vient faire ici. Vous pouvez donc aller sur place, mais auparavant il faut réserver au 02 43 05 64 55 ou bien sur le site de la compagnie. Un autre spectacle proposé à Cran, lui, la semaine prochaine, le 9 février, mercredi, à 15h et à 20h, de la compagnie Javier Aranda, excusez mon accent espagnol, donc où là on va suivre en fait un peu toute cette vie qui jaillit d'une boîte à couture, une vie sous toutes ses formes, vraiment. Donc c'est un spectacle assez poétique qui est proposé donc à partir de pour les enfants aussi, mais aussi pour leurs parents, tarif de 3 à 13 euros. Et c'est sur réservation, là aussi, par mail à culture@paysdecran.fr. Et puis, évidemment, il y a des animations aussi pour les vacances. Alors, loin de moi l'idée de vouloir tout lister, mais il y a notamment des ateliers du patrimoine à Château-Gontier proposés mercredi prochain et le mercredi suivant, le 16 février. Ce sera à 14h30 à l'office de tourisme de Château-Gontier pour justement découvrir la ville autrement, avec notamment les aquarelles et les dessins d'Alcine Sénan. C'est à partir de 4 euros l'atelier. Et puis vous pourrez aussi profiter de la réouverture du musée du château de Mayenne avec, donc ce week-end, avec différents ateliers proposés la semaine prochaine, et notamment empreintes et végétaux, livres d'artistes ou encore de création de badges, sans oublier l'escape game qui est toujours là. C'est la fin de notre émission L'Agité du local, et la fin aussi pour cette semaine. Mais restez avec nous, puisqu'à 20h, il y aura Passe-moi le thème, consacré ce soir à l'année 1982. Et oui, on jette un coup d'œil 40 ans en arrière. Et puis demain, à 11h, il y aura L'Enfant a des droits. À 17h, Bud Station. Et à 22h, une autre émission musicale, Le Grand Convoi. Nous, on se retrouve lundi. Je vous souhaite une très belle journée et un très bon week-end.